Vous êtes sur le point de suivre Lève-toi et brille, un message du club Jésus pour réussir, enregistré lors du culte d'adoration, de louange et d'enseignement hebdomadaire qui y est donné tous les dimanches à 19h. Le club est situé à Sainte-Rita, au-dessus de Alibert, au bord des pavés de Sainte-Rita, à 3 rues de la station MRS en direction de Fifadji. Nous sommes joignables par téléphone au 94 97 07 07 ou au 96 98 36 36. Vous êtes donc les bienvenus au culte de ce soir à 19h qui est d'entrée libre et totalement gratuite. Soyez bénis.
Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je rends grâce à Dieu comme toujours pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et comme elle est à double tranchant, quelle que soit la manière dont on la prend, elle atteint son objectif. Elle coupe toujours efficacement jusqu'à la jointure de la moelle et de l'os. À moins de la fuir, personne ne peut échapper à son effet. Le Seigneur nous dit que quand sa parole sort, elle ne revient pas à lui sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. La parole de Dieu est esprit et vie. Ce n'est pas des écrits de Dieu. C'est la parole de Dieu. On aurait même dû traduire la voix de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, en fait, nous écoutons la voix de Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, en fait, nous échangeons, nous conversons avec Dieu. Et cette voix de Dieu est vivante. Vous pouvez la lire 10 fois. Si vous êtes vraiment connecté au Saint-Esprit, vous recevrez 10 choses différentes. Il y a la lettre de la parole qui ne change pas. Ça, c'est ce qui est écrit. Les mots sont les mots. Mais l'esprit de la parole vous parle et interpelle votre esprit. Cet esprit vous donne la vie, vous encourage, vous fortifie, vous exhorte, vous éclaire. Et c'est là où on fait la différence entre le logos et le rhéma. Le logo, c'est la parole littérale, terre à terre, c'est les mots alignés dans la parole de Dieu. Et tout le monde peut le lire, mais peu de gens le comprennent. Mais le rhéma, c'est la vie qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est quand l'Esprit de Dieu, à travers sa parole, vous parle, discute avec vous, vous interpelle, vous montre des choses. L'effet de la parole de Dieu vient du rhéma de Dieu. C'est le rhéma de Dieu qui nous communique la vie, qui nous communique les objectifs de Dieu, qui nous communique l'énergie de Dieu. Et on ne peut pas discerner ce rhéma-là si on ne cherche pas Dieu en lisant sa parole, si on lit sa parole comme un touriste qui lit les mots. Je voudrais vous rappeler que la parole de Dieu, ce n'est pas un jeu. Rappelez-vous que tout a été accompli par la parole de Dieu. Rien n'a été accompli sans cette parole. Et le Seigneur Jésus, notre Dieu, le Dieu, il est lui-même la parole qui s'est faite chair, la parole incarnée. Quand vous priez au nom de Jésus-Christ, vous priez donc au nom de la parole de Dieu. Et on peut dire que Jésus-Christ est comme la mise en scène vivante de tout ce que la parole de Dieu dit. Et c'est pour ça qu'il dit que si quelqu'un obéit à la parole, demeure dans la parole, alors cette personne est en lui et qu'il va pouvoir agir à travers cette personne. Cette introduction pour rappeler à quel point la parole de Dieu est importante. Elle est importante comme quelque chose de sacré. Elle est importante comme la voix de Dieu. Et quand on prend la voix de Dieu, on ne peut pas la triturer comme on veut, la manipuler comme on veut, lui faire dire ce qu'on veut. La parole de Dieu elle-même nous dit que nul n'a le droit d'y ajouter ou d'en retrancher quelconque mot. C'est comme le testament de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. C'est comme un contrat, c'est comme un pacte, un testament que Dieu nous a légué. Comme vous le savez, on ne touche pas au testament de quelqu'un. Quand quelqu'un meurt et donne un testament qui décrit ses dernières volontés, personne ne change son testament, ni ajoute un mot, ne remplace quelqu'un parce que ça lui plaît. De même, on ne triture pas la parole de Dieu. On ne peut pas faire dire à la parole de Dieu tout ce qu'on veut. Non. C'est vrai que la parole nous parle. C'est vrai que son esprit nous donne des rémas. Mais les rémas ne viennent pas contredire la lettre de la parole, elles viennent approfondir la lettre de la parole.
Trop
de gens contredisent la parole sous prétexte que chacun est libre de comprendre la parole comme elle veut. La parole de Dieu est claire. Et quand on la remet dans son contexte, aussi bien le contexte biblique, le contexte du livre dans lequel c'est mis, ou le contexte historique du moment où ça a été écrit, chaque parole de Dieu a un sens. Et ce sens est assez précis pour qu'il ne puisse pas être possible de le manipuler, de lui faire dire n'importe quoi. Dieu nous dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme un enfant.
Alors,
un enfant n'est pas compliqué. Quand tu lui dis quelque chose, il comprend la chose au premier degré, il ne fait pas de spéculation mentale. Les hommes, au lieu de chercher à comprendre la parole de Dieu simplement, refusent de la comprendre et disent non, il doit vouloir dire autre chose, il ne peut pas avoir voulu dire ça. Chaque fois que Dieu nous dit de faire quelque chose et que l'homme trouve difficile, au lieu que l'homme se soumette et obéisse à ce que Dieu a dit, il estime que Dieu doit avoir exagéré parce que ce qu'il demande n'est pas faisable. C'est trop facile de passer son temps à dire que Dieu n'a pas voulu dire ce qu'il a voulu dire. C'est trop facile de dire que le monde est moderne, qu'il y a le développement, qu'il y a la liberté, et que donc on est libre de comprendre comme on veut parce que tout ne peut plus être pris comme ça doit être pris. C'est vrai que dans la Bible, il y a des faits historiques. Il y a des choses qui sont par exemple arrivées au peuple juif, c'est quelque chose de précis dans leur histoire, c'est des faits datés, c'est des faits culturels qui sont propres à eux, qu'on ne peut pas généraliser. Il y a des choses comme ça dans la parole de Dieu. Mais il y a aussi dans la parole de Dieu des vérités éternelles, intemporelles, qui n'ont rien à voir avec les personnes des lieux, qui sont d'actualité tous les jours.
Pour ces
vérités éternelles, il n'y a pas de problème. On ne doit pas les toucher, on doit les accepter, les comprendre. Pas les discuter, les philosophies. Mais cela ne veut pas dire que les faits qui sont culturels, qui sont spécifiques au peuple juif, par exemple, ou aux Égyptiens qu'on sort dans la Bible, ne doivent pas être acceptés aujourd'hui. Ces faits doivent être acceptés, mais remis en perspective, c'est-à-dire relativisé par rapport au contexte. Il y a des choses qui se sont passées que nous ne devons pas comprendre mot à mot, mais qui nous révèle un principe. C'est comme une mise en scène, comme un exemple derrière lequel Dieu tire un principe. Ce principe est éternel, même si la mise en scène est contextuelle.
Quand
vous prenez par exemple les fêtes juives, on peut dire en quoi les fêtes juives concernent un béninois, ça n'a rien à voir avec nous. Mais quand vous comprenez le sens, l'esprit de ces fêtes juives, vous verrez que leur esprit est éternel et concerne tous les citoyens du monde, même si on ne va pas les fêter exactement comme les juifs. L'esprit qu'il y a derrière est universel.
Quand
vous prenez par exemple la construction de l'arche, là où il y avait le tabernacle de Dieu, Dieu donne plein de précisions, les mesures et tout ça. Pendant longtemps, moi-même, j'ai cru que c'était superflu. Ça, c'était pour eux, il n'y a plus d'arche aujourd'hui.
Mais ce n'est
pas
vrai.
Quand Dieu m'a révélé certaines choses, j'ai compris que tous les détails de l'arche représentait symboliquement quelque chose. Les dimensions des choses, les couleurs des choses, la position des choses, les matériaux des choses, tout cela veut dire quelque chose quand vous en recevez la révélation. C'est donc par ignorance que nous périssons en croyant qu'il y a des choses qui sont écrites comme ça. Et si vous nous suivez, nous allons faire bientôt des enseignements sur toutes ces choses pour vous montrer que la Bible est tellement vraie que c'est parce que nous sommes bêtes que nous croyons qu'elle n'est plus vraie. Ce n'est pas un manque de révélation de ce qu'elle veut dire aujourd'hui. Et c'est là où vous découvrez que s'il est vrai que le Nouveau Testament semble différent de l'Ancien Testament, tout ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament a été annoncé, a été prophétisé dans l'Ancien. Le Nouveau n'est que l'accomplissement de l'Ancien. C'est pour ça que Jésus dit, tout est accompli. Et beaucoup de gens font aujourd'hui comme les pharisiens de l'époque. Leur livre, la Torah et tout ce qu'ils avaient comme livre saint, qu'ils connaissaient, qu'ils avaient bûché par cœur, annonçaient, prophétisaient dans des gens comme Isaïe, Jésus. Mais ils ont eu Jésus sur leurs yeux. Ils n'ont même pas reconnu les prophéties qu'ils avaient bûchées en Jésus. Quand vous prenez le psaume, je crois, 22, si je ne me trompe pas, il décrit la crucifixion de Jésus. Quand Jésus dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne fait que conférer un psaume de David des centaines d'années avant.
C'est
vous dire que c'est par ignorance que nous avons l'impression que la Bible c'est un livre compliqué, les gens écrivent quelque chose, bon, ce n'est pas très d'actualité, on fait comme on veut. Non, on ne fait pas comme on veut. Chaque mot de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, a son importance, ça ne se négocie pas. Alors pourquoi je parle aujourd'hui de l'importance de la parole de Dieu? Mais parce qu'elle est le fondement de toute foi. Je ne parle pas de toute religion. Je parle de toute foi. Et la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de Dieu. Pas de ce qu'on entend des pasteurs. Pas de ce qu'on entend des prophètes. Pas de ce qu'on entend des prêtres. Pas de ce qu'on entend des charlatans ou des magiciens. Pas de la philosophie. Pas du catéchisme. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. De la parole de Dieu. Si vous croyez en autre chose que ce que Dieu a dit, ce n'est pas de la foi, c'est de l'espérance. L'espérance, c'est d'espérer quelque chose. C'est croire que quelque chose va se passer. Ce n'est pas mauvais d'espérer. On est libre d'espérer. Mais l'espérance, ce n'est pas la foi. Parce que la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Et la démonstration de ce qu'on attend. Quand vous avez la foi, vous pouvez attendre avec assurance, sans trembler, sans douter, être sûr que ce dans lequel vous avez placé votre foi va s'accomplir.
C'en
est au point où la foi est même définie comme étant la substance, la garantie, l'assurance de ce que vous attendez. Si c'est la foi, considérez quand vous enlevez la foi en quelque chose que la chose est déjà dans vos
mains.
Et quand c'est la foi, c'est aussi la démonstration de ce qu'on attend. Si par exemple, Dieu te dit, ma fille, d'ici un an, tu tiendras un bébé dans tes mains. Si c'est Dieu qui a parlé et que donc tu l'as écouté et que tu l'espères, donc tu as foi en ce que Dieu a dit, tu peux commencer à faire ton trousseau. N'attends même pas de tomber enceinte.
Ndidi yo wey kan jawu to nwe ma udome e si khle wey ndo jele ma wo ni edo medero fi ba be do me na mo fi bo ju a kan si te bo dia fo me ko mo fi o
to ce qu'on appelle la démonstration ce qu'on attend.
Anyway khle nwe do nku
ko quand Dieu t'a parlé
ni ma ude gbe nwe
considère que c'est fait. Parce que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Rien ne peut arrêter le projet de Dieu. Il n'agit jamais trop tard. Il n'agit jamais trop tôt. Quand il libère sa parole, rien ne peut l'empêcher de s'accomplir. Donc si il dit ma fille, dans 20 ans tu tiendras un bébé dans les mains, n'attends pas de tomber enceinte. Si la foi, c'est la démonstration de ce que tu attends et que c'est vraiment Dieu qui t'a promis ton bébé d'ici un an, commence à faire ton trousseau. Tu peux annoncer à tout le monde en même temps que tu es enceinte. C'est ça la foi. Mais ça, ce n'est pas l'espérance. Si tu es là, tu n'es pas marié, tu n'as même pas de fiancé, tu te balades juste d'homme en homme, et puis tu as envie d'avoir un enfant, et tu te convaincs que tu vas avoir un enfant, et tu pries pour avoir un enfant, et tu espères avoir un enfant, ce n'est pas de la foi. Tu peux exercer ta foi. Tu peux exercer n'importe comment. Tu peux même prier beaucoup. Attendre un enfant, ce n'est pas de la foi. C'est de l'espérance. Quelle est la différence entre l'espérance et la foi? C'est que c'est la foi vient de ce qu'on entend de Dieu. La foi, c'est quand tu espères fermement en ce que Dieu a ouvert sa bouche. Soit il te l'a dit directement. Soit il t'a parlé par un réma. Il a envoyé quelqu'un te le prophétiser. Il t'a parlé par sa parole. Il peut te parler de différentes manières. Mais attention pour ne pas te tromper. Dieu te dit que tout ce qu'il va te dire d'aussi important que ça, il le confirmera par deux ou trois manières différentes. Tu peux pas prendre ta Bible, fermer les yeux, faire la loterie, ouvrir une page. Tu lis un passage, s'il te plaît. Bon, là où on dit que tu veux, tu es maudit, tout ça, tu ne lis pas, ça ne te plaît pas. Là où tu vois bénissant, tu lis. Et voilà, Dieu vient me dire que je suis béni. Non, c'est pas la loterie. Ça peut être Dieu qui t'a parlé. Mais si c'est lui qui t'a parlé, il doit te le confirmer de deux ou trois autres manières. Ils ne doivent pas faire tous de la loterie. Hein. Et quand Dieu t'a parlé, tu as la conviction intérieure que C'est Dieu qui a parlé. Tu as une grande peur par rapport à la situation. Quand Dieu te parle, c'est pour ça que la Bible nous parle du don de la foi. Quand Dieu te parle, tu ne peux même pas douter. Tu n'es pas obligé de faire des efforts pour chasser le doute. Naturellement, tu crois. Naturellement, tu es sûr. Si Dieu a ouvert sa bouche pour parler, tu sais qui t'a parlé. Et tu sais qu'il n'y a pas de problème. Et tu ne douteras pas. Et tu verras la chose. C'est pour ça que Dieu est l'auteur de la foi. Il est le consommateur de la foi, mais il est aussi l'auteur de la foi. Non, c'est lui qui déclenche la foi, c'est pas toi. Et comment il déclenche la foi?
En
te donnant un réma, en te donnant une parole. C'est pour ça qu'on nous dit par ailleurs que la foi vient de ce que Dieu a dit. La foi, c'est ça. Et plus généralement, avoir foi, c'est de craindre Dieu. C'est de savoir qu'il est vivant, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De savoir qu'on doit lui obéir. De savoir que Jésus est son fils. Et que Jésus est Dieu. Et que Dieu est Jésus. C'est de croire qu'il est Dieu. C'est de le suivre. C'est de lui obéir. C'est de lui donner sa vie. C'est de nous crucifier nous-mêmes à la croix. Afin que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit Christ qui vive en nous. Quand tout cela est fait, nous portons des fruits. Parce que ce n'est plus notre vie qui est en jeu. C'est la vie de Dieu qui est en nous. Notre corps n'est qu'une carcasse, n'est qu'une marionnette entre les mains de Dieu. La foi, c'est de croire que Dieu existe. C'est de le connaître. Et même si on ne le voit pas toujours de manière visible, d'agir en tenant compte de lui, de penser par lui, de parler par lui, d'agir par lui. Quand on nous voit, on doit nous voir comme des témoins de Jésus. Quand on nous voit, on doit porter les fruits de Jésus. La foi est donc une vie. La foi, c'est une culture. Ce n'est pas une religion. Toutes les religions du monde, y compris la mienne, si j'en avais, sont mauvaises. Toutes les religions sont mauvaises.
Obéir.
Au cas où vous l'aurez oublié, c'est les religieux qui ont tué Jésus. Hein. C'est pas les païens qui ont tué Jésus. C'est les religieux qui l'ont tué. C'est eux qu'il a traité de tombeau blanchi. C'est à eux qu'il a demandé si un aveugle comme eux peut conduire d'autres aveugles. C'est à eux qu'il a dit qu'ils n'ont pas d'amour, tellement qu'ils ne veulent même pas qu'on sauve les enfants d'Abraham le jour du sabbat, alors qu'ils détachent leur mouton le jour du sabbat. C'est d'eux qu'il parlait. Les religieux de toutes les religions.
Si c'est là où zèle, ho et d'abord de Jelemede, y'a d'accoudo wanyo, y'a kujolo de nouen, au via Abraham ton gang, do asbojezang beo, y'a d'accoudo wedi.
C'est eux qui l'a chassé du temps par la chicotte parce qu'ils ont transformé la maison de son père en une maison de commerce.
Et ne yeme nele, et ouais, bah doboli babo nyasi go hobe, ou la noue, fémisan dio, et préfélo et toparia.
C'est les religieux de toutes les religions qui, quand Jésus parle, était complexé parce que Jésus disait des vérités. Là où ils avaient endormi le peuple, ils embrouillaient le peuple. Jésus parlait et ils étaient nus. Ils ne pouvaient pas réagir en public si les gens voulaient le lapider. Mais dans leur cœur, ils brûlaient contre Jésus.
C'est eux
les religieux.
C'est
des gens qui n'aimaient pas la vérité. Et Jésus leur a dit que ils sont des enfants de Satan. Parce que s'ils étaient des enfants de Dieu, comme ils le prétendent, ils aimeraient Jésus qui vient de Dieu. Mais peut-être que c'est parce qu'ils sont des enfants de Satan qui ne peuvent pas aimer ce qui vient de Dieu. Jésus faisait ce que la parole dit. Jésus accomplissait ce qu'ils ont bûché qu'ils récitent. Mais leur cœur était tellement méchant qu'ils ne pouvaient même pas le reconnaître. Jésus ouvre les yeux aux aveugles, les religieux sont fâchés. Il dit pourquoi il n'a pas suivi le protocole des religieux pour sauver le gars. Jésus réveille au mort, dit que c'est Satan qui a réveillé le mort. Tellement qu'il a dit, mais pourquoi moi, le Saint-Esprit agit, vous attribuez ça à Belzébul? le péché contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné.
C'est
les religieux qui plusieurs fois ont essayé de tuer Jésus. Et la Bible dit qu'il les a feintés, il est sorti du public indemne. C'est les religieux, les gens des religions, les patrons des religions, toutes les religions.
On parle
souvent de Judas.
Lui
au moins à un moment il s'est repenti, il s'est suicidé.
Mais
qui a été payé Judas?
Judas?
Il y a un crime. Il y a un corrupteur et un corrompu. Les religieux sont les corrupteurs qui ont payé les 30 pièces d'argent pour qu'on tue Dieu.
Le pauvre
Judas. Jésus a dit le malheur doit arriver. Le scandale doit arriver.
Le
malheur celui par lequel ils
arrivent.
Le scandale devait arriver.
Le
pauvre Judas, ça a été lui.
Mais
lui au moins, il s'est repenti. Dieu dit que celui qui se repent, il aura miséricorde pour lui. Il ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il se
repente.
Même si c'était trop tard. Parce que Jésus devait aller dans tous les cas là. Mais Judas s'est tellement répandu.
Il
s'est suicidé. C'est pareil aujourd'hui. Il y a des païens. Il y a des voleurs. Il y a des braqueurs. Il y a des tueurs. Il y a des prostituées. On dit que ça, c'est les païens. Et les religieux, comme les hommes de foi, disent que c'est eux les mauvais. Mais ce n'est pas eux qui tuent Jésus. Hein? C'est les religieux qui tuent Jésus. C'est les gens qui ont la Bible à la main qui tuent Jésus. C'est les gens qui ont la Bible, c'est à la main qui tuent Jésus. C'est eux qui tuent Dieu tous les jours. C'est eux qui persécutent les enfants de Dieu tous les jours. Mais pendant qu'ils tuent les enfants de Dieu, et qu'ils tuent la parole de Dieu, et qui persécute la parole sans jamais se repentir. Tous les jours, il y a des prostituées qui viennent à Jésus. Tous les jours, il y a des tueurs qui viennent à Jésus. Tous les jours, il y a des voleurs qui viennent à Jésus. Il
n'y
a rien de nouveau sous le soleil. Jésus a dit, tout est écrit. Comme depuis le temps de Jésus, les religieux sont les plus mauvais, sont les plus faux. C'est les enfants du diable. Mais qui parle de Dieu et qui persécute la vérité, se moque tant des païens, au lieu d'aimer les païens pour les attirer à
Jésus.
Mais l'homme de foi, le vrai enfant de Dieu, va comme Jésus, aller vers les païens, aller vers les pécheurs. Se rappeler que Dieu n'est pas venu pour les religieux. Ils vont le vendre dans tous les cas. Si vous êtes un homme de foi, les religieux vous persécuteront. Que vous soyez musulman ou chrétien, quel que soit le bord dans lequel vous avez la foi, les vrais religieux vous détesteront toujours. Parce qu'ils sont des enfants du diable. Et ils vont toujours se moquer des enfants de Dieu qui se répandent et qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Parce qu'ils ont trop d'orgueil pour se
répandir.
C'est eux qui ont tué Dieu. Et la Bible nous dit que depuis toujours, chaque fois que Dieu a envoyé ses prophètes, ils ont été lapidés, tués. Les Jérémie consorts. Mais qui les a torturés? Mais qui les a tués? Ce
n'est
pas toujours les religieux. Demandez aux chrétiens. Demandez aux musulmans. Les plus grands persécuteurs de tout homme de foi, c'est dans sa religion.
Et
les religieux donnent toujours une mauvaise image de Dieu. Ils agissent pour le compte du diable, mais en parlant de Dieu. Et quel est le résultat? Ceux qui sont des païens encore, qui auraient envie d'aller à Dieu, quand ils les voient en train de parler de Dieu, on dit que c'est les grands religieux. Mais comme leur comportement vient du diable, qu'ils portent les fruits du diable, on dit si Les religieux doivent être diaboliques. Moi, je ne veux pas à la religion. C'est pas mauvais de ne pas aller à la religion parce que la religion est mauvaise. Toute religion est mauvaise. Donc, si toi qui m'écoutes, car je sais que vous êtes nombreux dans ce cas, tu as tellement été dégoûté par les religions. Tu as tellement eu envie de vomir en voyant les religions. Les gens les plus mauvais que j'ai connus dans ma vie sont des religieux. Et les gens les plus mauvais de la Bible sont des religieux. Les religieux sont toujours des gens mauvais. Mais la religion n'est pas un problème. Si tu en es tellement dégoûté que tu dis jamais je n'irai plus dans une religion, alléluia, c'est bien. Vous allez voir que de plus en plus les gens disent ouais, je suis dégoûté par les églises, je ne mettrai plus jamais pied dans une église. Ça, c'est le résultat. Ils ont croisé des religieux. Quand je parle, vous allez avoir l'impression que je suis dur. Mais regardez les gens, ils sont tellement dégoûtés par la religion qu'ils ne veulent même plus entendre parler de religion. Les gens ont quitté les couvents, ont quitté le diable, sont venus à l'église. Ils ont été dégoûtés, ils disent, bon, je préfère faire ma maison à défaut de tourner dans un couvent.
Mais les jokes, si c'est do, bon, je gagne si c'est do, bon, je roule si c'est do, bon, je domine à Jésus, à Goloa, bon, si c'est na ou Zéléa, y'a bon, bah, donou, y'a bon, nous donou, y'a, caca, l'obéti, y'a bien, j'ai ma bonne, on peut checker.
Il y a des gens qui ont changé d'église en croyant qu'ils allaient dans une église vivante. Ils ont découvert un tel dégoût des religieux de ce côté-là aussi qu'ils ont encore fait marche arrière pour tourner en enfer.
Il y en a d'un ou tribunal. Mais ne l'est
Donc, si nous nous mettons à défendre la religion, nous ne serons pas honnêtes avec nous-mêmes. Jésus a rarement insulté quelqu'un. Mais quand vous voyez Jésus fâché dans la Bible, en train de traiter quelqu'un d'un oiseau, regardez, c'est toujours religieux. C'est pas moi, c'est dans la Bible, vous allez lire. Mais la bonne nouvelle est ceci. On nous parle de la bonne nouvelle de paix. On parle de l'évangile de paix. La bonne nouvelle n'est pas une affaire de religion. Dans quelle église tu as vu Jésus rentrer? Dans quelle mosquée tu as vu Jésus rentrer?
Il a dit
que ça là c'est la religion de Jésus. Jésus n'avait pas de religion. Même qu'il a donné ce qu'on appelle le grand commandement à ses disciples, il n'a pas dit retrouvez-vous dans votre religion tous les dimanches.
Il dit
allez à Jérusalem, allez en
Samarie,
allez en Judée, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Annoncez la bonne nouvelle. Ce que Dieu veut, ce n'est pas une vie de religion. C'est une vie de foi. Quelle est la différence entre la foi et la religion? La religion, c'est un groupe de personnes qui se retrouvent pour parler de Dieu et pour dire aux gens comment suivre Dieu et pour dire aux gens comment selon eux, on devrait plaire à Dieu.
Donc,
la religion, c'est un groupe de personnes qui a pour fond de commerce
Dieu.
Donc c'est des hommes, ils font leur protocole, ils font leur constitution, ils élisent leur président, ils élisent leur député, ils font leur politique, ils font leur coup d'état. C'est un mélange sale de politique, d'escroquerie, mais au nom de Dieu. C'est ça la religion. Toutes les religions, je parle de nom pour qu'on dise que j'ai fait quelqu'un, mais tout ce qu'on appelle religion est mauvais. Si vous croyez que moi-même j'ai une religion, je vous dis elle est mauvaise. Toute religion est mauvaise. Quand vous regardez, je crois, dans Apocalypse 2, si je ne me trompe pas, le message de Jésus aux sept églises.
Oh, Jésus a qu'à nous do à Kouvovo.
Il parle l'église de
l'Odyssée.
L'église d'Éphèse.
Et d'accord, nous Éphèse.
Et qu'on soit, il parle de chaque type d'église.
Et
ici, différentes églises.
Là,
là ce n'est même pas des religions, c'est des églises. C'est déjà des communautés vivantes, de foi, c'est déjà un peu mieux.
Et nous sommes ici,
Jésus dit, voilà vos points forts. Voilà en quoi vous êtes des hommes de foi. Voilà en quoi vous obéissez à Dieu. Mais là, là, vous déconnez. Là et là, c'est mauvais. Et il ne finit pas par dire, toi, tu es parfait, tu vas au ciel. Il te dit, si tu conserves ce que j'aime en toi, et que tu corriges ce que je viens de dire que je déteste en toi, alors tu auras la couronne des vainqueurs. Il ne dit pas que si ton église est bien, ou que si ton église n'est pas mauvaise, tu auras la couronne. Lisez. Déjà, je vous confirme que c'est bien le psaume 22. Allez, le psaume 22, vous verrez comment, depuis David, la crucifixion de Jésus jusqu'au tirage de ses vêtements était prophétisée. Pour vous montrer que tout est écrit. Donc, nous devons nous rappeler que la foi, c'est une manière de vivre. La foi, c'est une manière de penser. La foi, c'est une manière de parler. La foi, c'est une manière d'agir. La foi, c'est une manière de vivre ensemble. Et quand je regarde dans le répertoire des hommes, ce qui ressemble le mieux à la foi, ce n'est pas la religion, c'est une culture.
On dit parfois
que la culture, c'est ce qu'on conserve quand on a tout oublié. C'est-à-dire l'essentiel qui rentre en lui, qui devient sa nature, qui détermine son comportement. Même s'il n'a rien en tête, ce qu'il fait de manière naturelle réflexe. Voilà ce que d'être la foi. La foi est une culture. La foi chrétienne, ce n'est pas la religion chrétienne. La foi chrétienne, c'est la culture chrétienne. C'est pour ça que vous allez voir que dans la Bible, à un moment, il y a une polémique entre les Juifs et les chrétiens. Et donc, ils se demandaient si tous les chrétiens devaient judaïser, ils se comporter comme les juifs. Ils
ne
devaient par exemple se circoncire. Certains croyaient que oui, d'autres croyaient que non. Finalement, le Saint-Esprit a tranché. Avec des gens comme Paul, il a été clair. Ce n'est pas parce qu'on est juif ou parce qu'on obéit à la culture juive qu'on est chrétien. Le christianisme, c'est la culture de Dieu. Et dans cette culture-là, nous sommes sauvés par la grâce de la croix, pas parce que nous faisons
un thème d'habitude culturelle.
Jésus nous dit que nous avons préféré la tradition des hommes aux lois de Dieu. La foi, c'est une culture. C'est pour ça que deux personnes différentes, deux ethnies différentes, deux ennemis, des gens qui naturellement devaient être incompatibles,
mais
dès qu'ils deviennent des chrétiens, ils s'appellent des frères. Ce n'est pas une manière de parler. Vous allez voir que dans leur comportement, s'ils sont des vrais chrétiens, ils vont commencer à penser la même manière, ils vont commencer à parler la même manière, ils vont commencer à agir la même manière, ils vont avoir des points communs, parce que la foi chrétienne est une culture. C'est la culture de Dieu pour donner à l'homme le bien le plus précieux qu'il recherche, la paix. La paix shalom. C'est-à-dire la paix, la joie, la santé, la prospérité, la sécurité, l'onction, la gloire. C'est ce que l'homme cherche. Et qu'on résume en français en disant la paix. Le christianisme, la foi chrétienne, c'est la culture que Dieu nous a révélée pour nous amener à avoir shalom. C'est pour ça que Jésus nous dit que si nous sommes dans cette culture, si nous agissons conformément aux lois de cette culture, nous allons manifester sa vie. La différence entre la religion et la foi est laquelle? La foi, c'est des hommes qui cherchent Dieu. La foi, c'est les hommes que Dieu a trouvés. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, ce que je dis là est important. C'est parce que vous n'avez pas compris ça que souvent vous êtes tellement dégoûté par les religions que vous fuyez Dieu pour aller au diable. Dieu n'est pas une religion. Vous allez voir, les religions peuvent poser des bombes, peuvent faire des bêtises, peuvent faire de la pédophilie, peuvent faire de l'escroquerie selon les religions. Tout ça, c'est religieux. Mais ça, c'est pas divin.
Adam-moi. Si c'est non si c'est rien, et n'a pas eu de bonheur, si c'est rien, et n'a pas eu de bonheur, et n'a pas eu de bonheur, si c'est rien, et n'a pas eu de bonheur, et
parle de Dieu, c'est vrai. Mais
ils
ne viennent pas de Dieu. Je vais vous lire à cet effet 2 Timothée 3, peut-être que vous comprenez ce que je dis. Les gens critiquent Dieu. Si tu vas voir un infirmier qui a fait 2 semaines de stage dans un quartier, il dit qu'il va t'opérer et il te tue, ce n'est pas la faute de l'hôpital et des docteurs.
Ni à Waïmo, au son, il vient de me le finir. Quand coton nous mille fini de bosse basanto dans l'auto, mais vous avez dit, c'est à Doemi. Bon, oiseau, nous mille oiseau, nous mille à Kao, y a quoi, mon.
Est-ce que tu vas à la tête vous dire, oui, les médecins sont incompétents. Il n'y a pas de système sanitaire au Bénin. Quelqu'un m'a opéré, je suis mort. On va dire qui t'a opéré. Un infirmier. Il n'a même pas fini sa formation d'infirmier. Tu es parti, dit opère-moi. Lui aussi, il a pris couteau. Et tu n'as pas fui. C'est la faute des hôpitaux ou c'est toi qui es bête?
Et il n'a dit, il me le mot, le boy, au bavi bobo, nous prenons comme le toto l'ennel, l'eau, toto l'ennel, d'agbédé de l'éméa.
Et c'est là où les gens vont voir n'importe qui. Comme ils ne connaissent pas même Dieu, on dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Si tu ne connais pas le manguier, on va te présenter des oranges pour dire que c'est les oranges qui ont été poussées, le manguier, tu vas croire. Parce que tu ne connais pas le manguier.
L'homme, ni à ma tonde, à mes lèvres, si tu es vraiment m'aider, Jean, m'aider, pom, le bonheur de Dieu, et le mau baba, toi. Ama gadi e umme umme wede bo dion e wa so yo boze wa nobro na jele ama gale ke ke si ama gati di beto mo koto koto obea.
Est-ce que manguier produit des oranges? Tu as amené des oranges, celui que tu envoies est un escroc.
Atunu mais ne do no do kuma tu magati o kuma katun nu e ama gati no na wa lo be so yo boze ano ba no cha ko ko ama gati lo nyu alo lo lelele e o escroc wa gai wa kai joni wa ya joto akasun ko to e wa so wi de so ijora.
Quand tu viens à Dieu, tu dois recevoir les fruits du Saint-Esprit.
Adonado si Saint Yesu.
Les fruits du Saint-Esprit, c'est quoi?
Si Saint Yesu.
C'est l'amour. Si Dieu veut tuer quelqu'un parce que la personne a fait des caricatures, pourquoi que Dieu a besoin des poseurs de bombes alors que c'est lui qui tient ta respiration?
Si Dieu veut tuer les gars de Charlie
Hebdo, ils vont mourir. Est-ce qu'on a besoin? Dieu a besoin que quelqu'un pose une bombe pour les tuer.
Et nani na je maura mina uli sha ebudo Charlie Edone.
Si vous aimez Dieu, n'essayez pas d'aider Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la vie, n'a pas besoin de vous pour prendre la vie. Regardez le nombre de personnes auxquelles Dieu prend la vie tous les jours. Et maintenant, pour cette personne, on va se fatiguer à poser des bombes. Il faut avoir pitié des gens qui posent des bombes, parce que s'il était intelligent, il laisserait Dieu s'en occuper lui-même. Il
n'a pas beaucoup de choses à dire.
Religieux, je suis un chrétien. Le chrétien a la culture de Christ.
Christ
et priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Si je suis chrétien, je ne peux pas souhaiter la mort des gens qui ont tué. Je dois dire, Seigneur, si tu as pu rencontrer Saul, Saul a tué des chrétiens. Il était complice de la mort de Étienne. Étienne était un grand saint, grand ami de Dieu. Tellement que Dieu a dû se lever de son trône pour accueillir
Étienne.
Et il avait demandé un laisser passer pour aller chercher beaucoup d'autres chrétiens à tuer.
Donc,
il a fait pire que les gars qui ont tué à Charlie. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas tué
Saul.
Dieu a dit, vous allez voir. Moi, je suis le maître. La seule force qui peut détruire le diable, c'est l'amour. C'est pas la haine. La haine vient de l'ignorance. Regardez par exemple dans notre pays, frère, le Niger. Nos frères musulmans étaient tellement choqués de ce qui s'est passé. Et je les comprends parce que personne n'a le droit de se moquer de Dieu. On peut ne pas être d'accord avec la foi de quelqu'un, mais on ne doit pas se moquer de Dieu, quelle que soit la forme que ça prend. Mais regardez jusqu'où va l'ignorance. Pour réagir à ce qui s'est passé, ils vont brûler des églises. Parce qu'ils présument que les gars de Charlie Hebdo étant des Français sont forcément des chrétiens. Mais ils sont tellement ignorants qu'ils ne savent pas que Charlie Hebdo, c'est des athées. Ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils font des caricatures contre le pape, contre l'église et contre les musulmans. Donc, pourquoi maintenant les musulmans vont tuer des chrétiens après qu'un gars athée se soit moqué de tous les deux, si ce n'est pas ça la bêtise du diable? Donc, les croyants sont tous attaqués par Charlie Hebdo. Mais pourquoi une partie des croyants attaque l'autre partie des croyants? Satan, le seul à faire ça, il prend les gens à gauche, à droite, il crée quelque chose, il les autodétruit. Il n'est venu que pour détruire, voler, égorger. Tout ce qui se passe là, c'est le plan de Satan. Le seul gagnant, c'est Satan. Personne
ne peut gagner.
Et ça n'a pas changé. Quand Satan est venu voir Adam et Ève, il n'a pas dit qu'il est le diable. Il dit le suivre, c'est la même chose que le suivre Dieu. Et c'est ça qui fonde l'idolâtrie. C'est ça qui fonde la religion. La religion, c'est des gens qui, au lieu de chercher Dieu et de laisser Dieu les trouver pour obéir à ce que Dieu dit, invente leur manière de plaire à Dieu. Invente leur manière de suivre Dieu en se foutant royalement de la vie de Dieu. Il dit, c'est comme ça que nous on va servir Dieu et tout le monde doit nous suivre dedans. Il ne veut pas écouter la vie de Dieu. Et cela vient de l'époque où, vous savez, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés du jardin. Ils n'ont plus donc été en communion avec le Saint-Esprit. Et Dieu avait mis les chérubins pour les empêcher de revenir. À ce moment-là, les hommes qui ont été créés avec une faim profonde de Dieu ont perdu la paix. Un homme qui n'est pas en communion avec Dieu, il peut tout avoir, il n'aura jamais la paix. Il va se faire des matins de mauvaise humeur, triste, il aura, c'est ça qu'on appelle la dépression, parce que les gens ont tout, ils ne peuvent pas dire qu'est-ce qui leur manque, mais ils ne sont pas heureux. heureux. Ce qui te manque, c'est Dieu, mon frère. La religion, c'est que quand l'homme a perdu la présence de Dieu, il a voulu retrouver Dieu lui-même. Il a voulu chasser Dieu. Il a commencé à fabriquer des choses. Bon, il dit que comme je ne vois plus Dieu, désormais cette table-là, c'est Dieu. Désormais ce pneu-là, c'est Dieu. Désormais ce fer-là, c'est Dieu. Désormais ce mouton-là, c'est Dieu. C'est ça que les Juifs ont fait. Ils ont dit que le christianisme, c'est pour les Blancs et qu'on n'importe quoi. Les Juifs là, ils sont combien de chrétiens? Et il y a plus de chrétiens africains dans tous les pays du monde que
chez
les Juifs. Mais quand Moïse est monté quelques jours sur la montagne, c'est pas ces Juifs là qui connaissaient pourtant le Dieu ni qui venaient de leur ouvrir la mer rouge, qui sont partis fabriquer un mouton pour l'appeler Dieu?
C'est-à-dire
que la religion, c'est que quand l'homme n'arrive pas à rentrer en communion avec Dieu, au lieu d'attendre humblement que Dieu vienne à lui, il commence à fabriquer des remplaçants, des substituts à Dieu pour ne plus avoir à attendre Dieu.
Donc,
au lieu de patienter et de faire preuve d'humilité jusqu'à ce que Dieu revienne à lui, il dit, bon, puisque tu es en train de traîner, va te faire foutre. Moi, je te représente ici et je m'en occupe. Je le sais, je l'adore à ma manière. C'est ma religion à moi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de religions. Parce que selon les cultures, selon les hommes, selon les sensibilités, chacun, quand il est impatient d'attendre Dieu, fabrique selon sa personnalité ce qui lui plaît. Quelqu'un dit c'est la fourmi qui est son Dieu, d'autres disent c'est l'oiseau qui est son Dieu, chacun selon son numéro, quelqu'un peut dire c'est l'éléphant qui est son Dieu, chacun fabrique son numéro. L'homme peut prendre l'animal là, l'égorger, l'animal va mourir. On dit que l'animal là protège les hommes. On prend un objet que l'homme fabrique avec sa main comme le fer, on dit que l'objet là protège l'homme. Koui. L'homme fabrique sa religion au lieu de patienter pour être en communion avec Dieu. Et quand les gens disent le christianisme, c'est pour les blancs, l'idolâtrie, c'est pour les noirs, c'est des foutaises. Les blancs font plus d'idolâtrie que les noirs. Toute personne dans tous les pays qui ne connaît pas Dieu fait de l'idolâtrie, c'est-à-dire se fabrique des substituts de Dieu pour se blaguer, se donner bonne conscience.
Et donc, je les ai mal aussi, si on les voit dans la déjà.
La foi, c'est lorsque l'homme est retrouvé par Dieu. La preuve, nos frères musulmans, nous nous reconnaissons tous. Il y a un seul Dieu. Première chose. Deuxième chose, nous reconnaissons ensemble la même personne comme étant le père de la foi. Qui est ce père de la foi? Il s'appelle
Abraham.
Mais c'est quoi l'histoire d'Abraham? Mais Abraham était un idolâtre.
Abraham
était dans une famille païenne qui faisait de l'idolâtrie comme les Béninois. Pendant une bonne partie de sa vie, comme il n'avait pas de communion avec Dieu, comme tout le monde, sa famille lui ont fabriqué leur Dieu et les
adorait.
Et Et il en était ainsi, Abraham n'aurait jamais pu être l'idolâtrie seul.
Parce
qu'un homme seul ou des hommes seuls ne peut faire que de la religion. La religion, c'est les hommes qui entrent, parlent de Dieu. Dieu n'est pas là.
Mais
quand Dieu a décidé, ce n'est pas Abraham qui a appelé Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi, le frère et
soeur
musulman et chrétien. C'est pas Abraham que la foi a commencé. Comment? C'est Abraham qui a prié.
Abraham,
il a fabriqué un dieu. Il a trouvé une formule magique. Il a fabriqué une nouvelle incantation. Abraham était tranquille. C'est Dieu qui se lève. Qui dit à Abraham, maintenant je t'ai choisi. Lève-toi. Quitte la maison de ton père.
Il a
dit la maison de ton père. Quand on veut dire on dit à nos frères Benoît, les fils de la fille, dit les choses de nos parents, de nos pères. Dieu dit à Abraham, lève les affaires de ton père. Sors de la culture de ton père.
Rentre
dans le désert. Un endroit où il n'y a pas de repère. Il y a des difficultés. Beaucoup de sable. Et à perte de vue, tu ne vois que du sable. Donc il n'y a rien de tentant dans le désert. C'est comme vous êtes dans l'idolâtrie. Et quand vous regardez la foi, vous ne voyez rien de tentant, il n'y a que le sable et le
désert. Mais
par la foi, en croyant Dieu, répondant à la parole de Dieu, pas à ce que les hommes disent, Abraham se lève, quitte la maison de son père. Et la Bible nous dit quoi? Au début, son père ne voulait pas. Mais finalement, qu'est-ce que son père a fait? Son père lui a donné sa bénédiction. Bien fait ça, non? Ça veut dire quoi? Les affaires de nos parents, la mémoire de nos parents. Si tes parents étaient là, s'ils savaient ce que tu sais, s'ils avaient la révélation que tu as eue,
et
tu as dit petit, on a fait ça, on est mort dans la pauvreté, dans la souffrance, on se bouffait. Il faut suivre Jésus et nous foutre la paix.
Moi,
je connais plein de grands-parents qui ont donné leur vie à Jésus et qui disent à leurs enfants, si j'avais eu votre chance de le découvrir quand j'étais jeune, c'est pas ça que j'aurais comme vie. Le père de la foi, c'est celui que Dieu a appelé.
Il
dit, quitte ta culture païenne. Quitte ton million, vous fabriquez vos dieux. Viens, moi qui suis Dieu. Je vais te montrer maintenant qui je suis. Je vais te conduire dans un pays qui pour le moment n'est pas le tien. Mais ce pays deviendra pour toi. Je vais te bénir. Je vais te donner de nombreux enfants. Tu seras béni à tous égards. Partout où tu vas régner. Ça ne s'est pas fait en un jour. Ça ne s'est pas fait en deux jours. Ça s'est fait sur des siècles. Mais la Bible nous raconte comment à partir d'Abraham, Dieu a commencé à se révéler petit à petit à l'homme. Au début, Abraham avait peur. Il ne connaissait pas Dieu. Il avait toutes ses habitudes païennes. Mais petit à petit, il a commencé à découvrir Dieu. À un moment, il ne connaissait pas Dieu. Dieu dit, je vais te donner un enfant. Comme les païens, à défaut de fabriquer un enfant, il a voulu aider Dieu. Il est parti prendre sa bonne. Il a fait un enfant avec sa bonne. Vous dites qu'il attend d'aider Dieu. C'est comme ça les religions font. Les idolâtres me disent que quand ils font les choses, si tu n'es pas content, pourquoi ils ne parlent pas? Dieu a empêché Abraham de faire un enfant avec
Agar.
Non, Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Quand l'homme fait ce qu'il veut, Dieu le laisse faire ce qu'il veut. Mais de temps en temps, Dieu envoie quelqu'un pour lui ouvrir les yeux. Parce qu'il sait qu'on a des yeux, mais qu'on ne voit rien, qu'on n'entend rien, alors qu'on a des oreilles, qu'on ne comprend rien, alors qu'on a un cœur. Parce que Satan sait que si nous comprenons, nous allons obéir à Dieu. Et si nous obéissons à Dieu, Dieu va nous bénir. Donc Satan fait que tu vois, mais tu ne vois rien. De temps en temps dans ta vie, Dieu va envoyer des gens qui vont te dire la vérité. Si tu es humble, tu vas te mettre à genoux. Tu vas dire, Seigneur, pardon, j'ai péché. Je veux comprendre, je veux comprendre. Viens me sauver. Mais si tu es orgueilleux, tu vas faire le malin. Tu vas commencer à raisonner. Tu vas commencer à philosopher. Les hommes sont libres
Chacun a sa religion. Il n'y a pas d'idolâtrie. Il ne faut pas juger les autres. Le mot juger là. J'ai remarqué les idolâtres beaucoup dit que Dieu a dit de ne pas juger les gens. Non, il
ne
faut pas mélanger les choses. Il faut savoir ce qu'on appelle le jugement. Le jugement à la manière de Dieu n'est pas le jugement à la manière des hommes. Les hommes ne jugent pas. En fait, ce que les hommes appellent jugement, le bon mot serait condamné. C'est-à-dire que les hommes viennent te dire, tu es mauvais, tu vas mourir. Ils te disent, tu mérites la mort, je veux que tu meurs. Et voilà, quand les tribunaux jugent, on retient qu'ils veulent casser quelqu'un, ils veulent punir quelqu'un. Et donc, conçu comme ça, seul Dieu a le droit de rétribuer, c'est-à-dire de juger et de condamner les gens. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que le jugement, c'est quoi? C'est quand Dieu confronte les choses à la vérité. Dieu dit, voilà ma parole. Voilà la vérité. Ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas des choses qui sont un peu vraies aujourd'hui, un peu fausses demain. Voilà la vérité. Tu es dans la vérité ou tu n'es pas dans la vérité. Et Dieu juge ta conformité à la vérité. Et il dit aux chrétiens, il dit aux enfants de Dieu que c'est notre devoir, c'est notre responsabilité, c'est notre obligation de dire à nos frères qu'ils ne sont pas dans la vérité, qu'ils ne sont pas dans la vérité. C'est pas à nous de condamner qui que ce soit. C'est pas à nous de maudire quelqu'un. C'est pas à déclarer que quelqu'un ira en enfer. Et ce n'est surtout pas à nous de tuer quelqu'un. Mais c'est à nous de dire, mon frère, tu es en train de te tromper. Tu fais ça parce que tu crois ça. Mais en fait, tu as tort. Je suis passé là avant toi. Voilà ce qu'il y a dedans. Mais voilà la vérité. Comme Abraham, Dieu s'est révélé à moi. Viens regarder ça. Et comme ce Dieu-là, ce n'est pas une statuette, il est vivant. Si tu veux t'effacer, viens essayer le. Viens par lui. Il va te répondre. Tes fétiches ne te répondent pas. Tes idoles ne te répondent pas. Mon Dieu va te répondre. Il va te parler. Tu lui demandes quelque chose. Il va te le donner. Tu vas l'expérimenter. Si c'est vrai ou faux, tu le sauras. Si tu as échoué en faisant quelque chose depuis 20 ans, il faut essayer autre chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu as toujours semé du maïs et tu récoltes du maïs, il n'y a pas de prière pour continuer de semer du maïs et récolter du mille. Il faut qu'une saison tu décides de ne pas semer du maïs et tu sèmes du mille pour voir. Mon frère, ma soeur, cette saison est arrivée. Il est temps de semer autre chose. Il est temps d'essayer autre chose. Il est temps d'essayer le vrai Dieu. Le vrai Dieu, ce n'est pas la religion. C'est pas là où on parle de ce que les hommes veulent. C'est là où on revient à la parole de Dieu. À la Bible. Je vous ferai bientôt un enseignement pour vous démontrer pourquoi la Bible est la parole de Dieu. Heureusement, la plupart des chrétiens, même les musulmans, reconnaissent l'authenticité de la parole de Dieu. Et donc, nous savons que la parole de Dieu, c'est la parole révélée de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Qu'on soit catholique, protestant, méthodiste et même musulman, par exemple, l'Ancien Testament, est commun en beaucoup de choses avec le Coran. Toutes les formes d'église au monde reconnaissent cela. Il y a quelques variantes, mais c'est des variantes mineures. Le fond est l'essentiel. Sachant cela, la parole de Dieu est le fondement de la foi. C'est d'elle que doit venir notre comportement avec Dieu. Et ceux qui sont déjà dans la foi doivent savoir qu'il est de leur devoir d'aller vers leurs frères qui n'ont pas encore découvert Dieu pour leur dire la vérité. Pas pour les violenter, pas pour les menacer, mais pour leur ouvrir les yeux, pour les convaincre, pour les inviter à essayer Dieu, tout en priant Dieu de les aider. Parce que c'est le Saint-Esprit qui ouvre les yeux, qui convainc les gens. C'est pour ça que je prie au moment où vous m'avez écouté, que le Saint-Esprit vous donne la grâce de recevoir la vérité.
On
peut même dire, mais qu'est-ce que ces gens-là, ces chrétiens-là, ont à se fatiguer à nous expliquer la parole de Dieu? On ne posera jamais de bombe parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Mais on ne se fatiguera jamais d'annoncer la bonne nouvelle. Vous savez le nombre de chrétiens qu'on a tués à cause de la bonne nouvelle?
Donc,
on peut me tuer, je vais annoncer la bonne nouvelle. Mais pourquoi c'est comme ça? Quand tu comprends ce qu'on a compris, quand tu vis ce qu'on vit, quand tu vois Dieu comme on l'a vu, mourir ce n'est plus rien pour toi, c'est pour aller chez Dieu. Mais quand tu vois ce que Satan veut faire des gens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, tu préfères mourir pour les sauver que de vivre sur la terre pour les voir aller en enfer. Sur la terre, nous vivons 100 ans peut-être. Si nous avons bien vécu, nous vivons au ciel, dans le paradis, pour l'éternité. Mais si nous nous sommes moqués de Dieu, préférez nos religions à la foi, nous serons en enfer dans la souffrance atroce pour l'éternité. On peut m'insulter, on peut me critiquer, on peut me tuer. Par la grâce de Dieu, je ne renoncerai jamais à me battre pour limiter les dégâts de l'enfer.
Quand
tu rencontres Dieu, tu sens que la seule chose qui attriste Dieu, c'est la vie de tous ces enfants qui sont en train d'être perdus par la
religion.
Donc, plus Dieu te bénit, plus tu as envie de faire ce plaisir à Dieu, de l'aider à sauver ses enfants qui sont perdus. Et quand les gens te persécutent, tu sais que ce n'est pas eux qui te persécutent. Paul nous le révèle, c'est les esprits mauvais qui les utilisent pour te persécuter. C'est pour ça que quand ton enfant est adolescent, tu veux l'éduquer, il veut encore te tuer alors que tu veux lui faire du bien. C'est normal, c'est le diable qui fait
ça.
Je voudrais vous lire pour vous terminer, comme je l'avais promis, 2 Timothée 3. Et c'est un résumé pour vous dire que tout ce qui se passe là est écrit. Il est écrit, tu dois le savoir. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes. Amis de l'argent. Que les pasteurs aiment l'argent, que les juifs aiment l'argent, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est écrit. Ils se vanteront. Ils seront orgueilleux. Ils insulteront Dieu. Pourquoi vous êtes surpris de ce que Charlie Hebdo fait? Alors que la parole de Dieu dans 2 Timothée 3 au verset 2 dit qu'ils insulteront Dieu.
S'ils
n'insultent pas Dieu, c'est que la parole de Dieu a menti.
Donc,
aucun homme de foi ne peut tuer quelqu'un qui a accompli la parole. Ils désobéiront à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels. Ennemis du bien. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. C'est pour ça, en tout cas, certains, quand ils tuent là, si on vous dit ce pourquoi ils tuent, ce qu'ils espèrent là-bas, c'est ça. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. Semblant d'être fidèles à Dieu. Mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Et la puissance de la foi, c'est l'amour. Tourne le dos à ces gens-là. Je t'ai relu ça pour te dire que tout ce qui se passe aujourd'hui là, ça surprend les gens qui ne connaissent pas la vérité. Ils se réunissent, ils s'agitent parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. C'est écrit. Et ce qui est écrit s'accomplira. Quand ça s'accomplit, il ne faut pas se stresser. Il faut faire notre part. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Tu peux te repentir maintenant. Tu peux te mettre à genoux maintenant. Dans ta chambre. Demander pardon à Dieu. Lui dis que tu donnes ta vie. Il prend le contrôle. Je m'abandonne à toi. Dirige-moi. Je ne veux plus vivre. Sois ma vie. Donne-moi d'aller quelque part. Je vais écouter ta parole. Te connaître, t'obéir. Afin d'être ton enfant. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Nous sommes dans les derniers jours. Tout ce que je t'ai dit, c'est pour les derniers jours. Regarde, tout ça s'accomplit. Nous sommes dans les derniers jours, mon frère. Réveille-toi. Laisse la religion. Quelle qu'elle soit. Laisse la religion. Et viens à la foi. Où que tu ailles à l'église. Où que tu ailles au culte. n'est pas ça le plus important. Mais vis comme Dieu a dit de vivre. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Que Dieu te bénisse.
Aimer lui ou aller, il doit quitter le beau cercle de Jésus pour réussir ton. De y no y to kanji do si cinq do pi pa ko de nombre do aklo no zante ba dando. Te we meyon ene a sene no vite akako nya ulia. Club Jésus pour réussir et le Saint-Esprit a si fait maintenant. Maintenant, nous avons sensé de nous dire que MRS est à gauche, le beau pays de FIFA de Véléa. Qui a mis à ton God ou à Lucito et Quelio, en amont 5 d'Ako de soi, on te fait le beau ici pour vous aider, finir ou aider. Et nous avons le beau Yola et à 94 97 07 07. Allô, allô, 96 98 36 36 et qu'on a tchèloué. Jésus n'est pas. Jésus n'est pas. Jésus n'est pas. Jésus n'est pas.